Mais je vais d'abord ouvrir la discussion. Monsieur le Pilouer.
Oui, non, mais c'est simplement pour rebondir sur ce qu'a dit Isabelle, puisque il me semble que, je voudrais revenir sur l'introduction de François et notamment le malaise dont il a fait état à propos de cette fameuse tribune juriste taisons-nous. Et à vrai dire, je comprends pas tellement le malaise parce que, enfin, à moins de s'en tenir au titre. Mais si on lisait la tribune, je ne crois pas que tu t'en sois tenu au titre, si on lisait la tribune, on se rendait compte qu'en réalité, il ne s'agissait pas de nier la possibilité que des juristes puissent prendre la parole à titre individuel sur des questions de type politique, du type de l'état d'urgence. Ça, c'est la première chose. Ce qu'il s'agissait de dire, c'est que de contester, c'était cette prise de position par les juristes qui consistait à dire... Notre expertise de juriste nous permet de comprendre ce qu'est vraiment le droit, les véritables catégories juridiques, et le mariage homosexuel n'est tout simplement pas envisageable dans ces conditions. Et c'est à ce titre que c'est l'intitulé de la tribune, c'est intitulé donc « Juriste, taisons-nous ». Et à vrai dire, c'était une erreur stratégique sans doute, ça a fait beaucoup parler, donc ça c'était réussi, mais ça a donné lieu à beaucoup d'incompréhension en réalité. Et puis le deuxième élément, c'est le fait que les personnes qui ont signé cette tribune, en réalité, avaient des positions différentes du point de vue épistémologique et ils pouvaient se rattacher plutôt à l'école critique qu'a décrite Isabelle, hein, ou au positivisme version 3 dont elle a parlé. À l'instant. Donc voilà, c'était juste une remarque pour préciser quelle était la position. Donc à vrai dire, je trouve que le malaise venait plutôt de la prise de position des premiers juristes en réalité, parce que il s'agissait de prétendre que certaines choses n'étaient tout simplement pas possibles, alors qu'il s'agissait d'une prise de position politique tout simplement. Bon.
Alors, la grande difficulté, c'est que ils prétendaient parler au nom du droit. Le problème, c'est de parler au nom du droit.
Alors, François, souhaites-tu répondre à cette attaque assez vive, quand même?
trop vive pour que j'y réponde. Oui, non, mais mon malaise, alors qui est tout à fait personnel, hein, mais qui me paraît pas complètement déplacé. Cette prise de position, alors effectivement, c'est ce que je disais, d'ailleurs, je l'ai pas du tout nié. C'est en réaction, clairement, notamment à un article de Pierre Delvolvé, soyons clairs. Je dis bien notamment. Une prise de position qui, effectivement, laissait entendre qu'il s'exprimait au nom du droit en disant qu'il y avait un PFRLR, un principe fondamental reconnu par la République interdisant le mariage homosexuel. Et le tout en laissant entendre que c'était objectivement fondé comme position. Bon, ce à quoi on répond, juriste, taisons-nous. Bon, j'avoue qu'il me semble que c'est plus fécond de répondre au contraire sur le terrain juridique, en montrant très bien que personne n'en sait rien, que sans doute même il est extrêmement dangereux de considérer que c'est un PFRLR et qu'il existe, et que en tout cas c'est loin d'être indiscutable, et qu'au contraire ça se discute. Moi, c'est ça le malaise, c'est d'un côté de dire taisons-nous, alors effectivement, mais qui quand même, enfin c'est pas seulement une question de titre, hein, ça se retrouve dans l'article quand même. On ne peut pas prendre position sur un terrain qui est qualifié de moral parce que c'est pas un terrain de droit positif strict. Bon, voilà, c'est ça le malaise, c'est que d'un côté on a ça et d'autre part. D'autre part, on a des prises de position très nettes contre. Mais encore une fois, il s'avère qu'en l'occurrence, je suis d'accord sur le fond. Donc c'est vraiment une question de méthode, à mon avis. Par ailleurs, donc des débats extrêmement virulents sur l'état d'urgence, sur les migrants, bon, mais toujours en leur qualité de juriste. Et c'est ça le problème. C'est en leur qualité de juriste. C'est pas seulement en leur qualité de citoyen. C'est en leur qualité de professeur de droit à l'université. Donc on dit d'un côté taisons-nous en notre qualité de professeur de droit d'un côté, et par ailleurs on prend position très nette. Voilà, enfin bon. Après j'entends effectivement toutes tes remarques par ailleurs.
ça ne renvoie pas. Enfin, ça renvoie à autre chose qui a été abordé ce matin, j'allais dire tout à l'heure, à l'instant, qui est que finalement le juriste peut être neutre ou scientifique. Les deux termes ont été employés de manière un peu synonyme dans une entreprise. En tout cas, il peut s'efforcer d'être neutre dans une entreprise de description du droit, mais on en déduit parfois qu'il ne pourrait absolument rien faire d'autre. Or, l'objectif de décrire le droit n'interdit pas du tout de le critiquer par la suite. Et même, il est nécessaire de le décrire pour savoir qu'est-ce qu'on va critiquer ensuite. Donc simplement, et ça renvoie à la question de la législation antisémite, on peut l'idée positiviste de décrire le droit en vigueur n'interdit pas du tout de le critiquer par la suite. Non, simplement, il faut distinguer les deux et non pas présenter comme une description ce qui est une évaluation. Voilà.
Je rebondis, c'est quand même pas en la même qualité, justement. C'est ça, la difficulté. C'est que d'un côté, on est juriste scientifique et de l'autre, on n'est plus juriste scientifique du tout. On est citoyen engagé. Moi, j'avoue, c'est ça le malaise. C'est que, à mon avis, cette distinction, elle est pour le moins poreuse.
Ouais, mais ça n'interdit pas d'essayer de la maintenir dans son activité, de dire, bon, voilà, le droit en vigueur, et à mon avis, c'est stupide. Oui, enfin, je ne dis pas que le mariage, je n'ai pas pris position sur le mariage.
Sauf que bien souvent, déjà dans la description, on trouve les prémices de ce qui sera la critique qui va suivre. La description, c'est ce que j'essayais de voir. Est-il possible d'écrire de façon neutre, hein? Ça a été remis en question. Bon, faudrait peut-être pas confondre neutralité et objectivité. Il y a vraiment deux axes ici. C'est soit la neutralité comme objectivité, ce que postule le positivisme, la dogmatique, pouvoir décrire les choses telles qu'elles sont, c'est-à-dire sans trace du sujet, de celui qui décrit. Mais après, il y a aussi la neutralité comme valeur, et c'est en ce sens-là, je pense, que doit s'entendre la neutralité axiologique chez Max Weber. C'est l'idée que la neutralité axiologique repose quand même, malgré tout, sur une valeur, celle de la recherche de la vérité, de la prétention à rechercher la vérité, et vouloir découvrir scrupuleusement la vérité, c'est déjà un parti pris. Hein? C'est déjà un parti pris. Donc ça repose déjà sur une valeur, mais qui est peut-être alors la seule valeur à laquelle, même difficilement, doit s'attacher le juriste ou le scientifique. Donc, d'ailleurs, Weber a très bien illustré cela en étant engagé politiquement, très engagé politiquement même, et en admettant, comme le fit aussi Kelsen, que le scientifique avait comme valeur les objets, mais avait besoin lui-même de ressentir des valeurs. Et c'est l'exemple de l'anarchiste qui serait le mieux à même pour décrire l'État, pour décrire le droit, qu'il honnit par ailleurs, puisque précisément il est dans une position d'extériorité, mais à la condition de l'admettre, d'être au clair avec ses valeurs. Et peut-être de le dire.
Alors ça rejoint l'idée de neutralité comme idéologie, n'est-ce pas ?
Je sais pas.
Je sais pas, est-ce que tu veux dire quelque chose ? Oui, non, enfin, ce qui est intéressant sur la question de la science, c'est le scientisme et le fait, enfin, comme tous les ismes, le scientisme et l'idéologie. On voit bien que le scientisme et la construction de la science du droit à la fin du XIXe siècle est un élément propre à la société industrielle bourgeoise. Et donc là, on a la critique à la fois des très conservateurs, des catholiques conservateurs et des marxistes. Et on voit bien que l'une des qualités dont va se prévaloir l'élite bourgeoise et l'État bourgeois à la fin du XIXe siècle, c'est qu'il est capable d'un discours sur la neutralité. Mais justement, ce discours, ou ce prétendu discours sur la neutralité, est un élément de son pouvoir et de sa légitimité. Et donc, la neutralité scientifique est un titre de pouvoir, d'une certaine manière. Bon, je sais, ça ne répond pas du tout d'ailleurs à ta question.
Herr Müller.
Oui, du coup, on s'est un petit peu éloigné du premier propos et ma remarque visait toujours la même, ce titre « Juriste, taisons-nous ». Et je me disais qu'en fait, peut-être, il faut bien distinguer le discours du juriste et le discours scientifique sur le droit. Parce que je crois que c'est vraiment deux choses différentes. Et je pense que le discours du juriste, lui, il ne peut pas être neutre. Parce que être juriste, c'est produire des justifications, de toute façon. Donc on n'échappe pas à ça. Et donc là, c'est un... vouloir être neutre, c'est une contradiction. Mais ce qui n'est pas la même chose d'un discours scientifique sur le droit comme objet d'étude, qui obéit sans doute à d'autres méthodologies. Voilà.
Qui d'autre, tu m'avais dit ? Monsieur Pitt, là-haut.
Bien, merci de me passer la parole. Je voudrais poser une question à l'ensemble des intervenants, un petit peu sous forme de provocation, de pomme de discorde aussi peut-être, mais je crois que ça peut faire avancer la réflexion. Lorsque je dis, par exemple, que le régime de l'état d'urgence est un régime qui limite les libertés, est-ce que j'énonce quelque chose qui relève de la description, c'est-à-dire qui serait scientifique ? Est-ce que je relève quelque chose qui serait dogmatique et donc qui prendrait parti ? Est-ce que je dis quelque chose qui relèverait d'une critique neutre ?
Moi, pour moi, description.
Chacun son tour, c'est ça ?
Moi, une description, Isabelle.
Donc, la discussion n'a pas d'objet.
Il me semble que... moi, ce que j'ai essayé de montrer, c'est qu'il n'y a pas une seule conception possible de la neutralité, de la même façon qu'il n'y a pas une seule conception possible de la critique. Et donc, il me semble que, par rapport à ce que tu disais aussi, quand tu distingues la dogmatique et le discours scientifique, ces deux types d'approches existent. Il se trouve qu'il y en a une qui est minoritaire par rapport à l'autre, ou l'inverse, majoritaire par rapport à l'autre. Mais
je sais bien que les deux types d'approches existent. Moi, je vous demande simplement, est-ce que mon approche, lorsque je dis cela, relève de l'une, de l'autre ou de la troisième catégorie ? Alors, le fond de la question est le suivant. En réalité, est-ce que tout ce débat n'est pas conditionné par une réflexion préalable, indispensable, nécessaire, inévitable, qui est de savoir quel est notre objet ? Si je parle de Saturne, si je parle de la Lune, si je parle du mouvement des étoiles, j'ai un certain objet. Lorsque je parle de l'homme, lorsque je parle de la société, lorsque je parle des valeurs, j'en ai un autre. Et en disant quelque chose sur ce qui est, prétendument, sur le plan donc normatif et qui existe objectivement, je participe à la détermination de ce contenu et par conséquent, je suis dans la parti pris.
Moi, je trouve que oui, parti pris, il y a forcément... Je démolis le micro, pardon. Il y a forcément un parti pris, un point de départ. Mais ce qui fait peut-être... la science commence... à partir du moment où on en discute précisément, où il y a débat sur les conditions de possibilité de la discussion même sur l'objet. Ouais, sur l'objet. Et à partir du moment où le discours est unilatéral, et donc toute la question dépend de savoir avec qui on discute aussi, qui reçoit le discours, parce qu'on parle du scientifique, mais il faudrait aussi parler de ceux qui reçoivent le discours, à partir de ce moment-là... La dogmatique, c'est la désignation d'un objet comme étant, je simplifie, mais point barre. Et puis la science, c'est à partir du moment où collectivement, car ça suppose une communauté scientifique et une forme d'intersubjectivité, les conditions de possibilité de la discussion et de la possibilité de l'objet, comme on commence en ce moment à le faire, débute et démarre, vous voyez. Donc je Donc ce qui est intéressant quand vous dites l'état d'urgence et la limitation de la liberté, c'est qu'il y ait justement trois hypothèses qui soient soulevées et qu'elles se confrontent. Voilà. Et que une collègue puisse dire que c'est les trois en même temps ou que d'autres puissent dire que ce n'est qu'une des versions. C'est cela, à mon avis, qui distingue, alors pour le coup, dogmatique et démarche scientifique.
Simplement, le problème demeure que si les trois qualifications sont possibles, on ne sait plus trop de quoi on parle. Hein.
Monsieur de Cruy-Chanel,
je termine juste en disant c'est dans la discussion sur... Il y aura forcément un moment donné où la discussion s'interrompt. Mais à ce qui me concerne, c'est... sur les conditions de possibilité, vraiment, de cette discussion, et sur celui qui, dans celle-ci, aura apporté le plus d'arguments, les arguments les plus valables à la position peu ou prou arrêtée. Enfin, voilà.
Alors, si vous le permettez, juste un rapide rebond, m'a-t-il dit.
Oui, alors, une question alors préalable est effectivement la définition de l'objet, et d'une certaine manière, il y a une autre... question qui va forcément arriver et que justement la science du droit ne pose jamais, qui est cruciale, c'est tout simplement la question essentielle, le destinataire, l'homme est-il libre ? Une fois qu'on a déterminé est-ce que l'homme est-il libre, qui est la question première, se pose ensuite la question pourquoi le droit existe ? Et la question du rapport entre la norme, l'autorité et la liberté constitue une science du droit qui, par définition, n'est pas neutre, puisqu'elle prend part, elle prend naissance dans une anthropologie, dans une philosophie particulière, et donc d'une conception générale de l'homme. Bien.
Pourquoi le droit existe-t-il, monsieur de Cruy-Chanel ?
Non, c'est pas pourquoi. Non, j'ai envie de prendre part au débat, mais effectivement, est-ce que c'est pas un problème de définition stipulative ? Si on commence en disant. En instituant l'état d'urgence, on sauve la liberté et que c'est le discours dogmatique. Venir dire, attention, l'état d'urgence est en réalité une limitation des libertés, ça devient un discours d'analyse critique et de dévoilement de ce que le discours prétendant sauver la liberté par l'état d'urgence peut avoir de voilement d'une certaine réalité. Si on considère que c'est le droit qui rend possible la liberté humaine en permettant la condition de vie en société, d'une certaine manière, on vide de sens le débat si on considère que l'état d'urgence est une institution juridique. Donc, d'une certaine manière, la question, je ne peux pas dire qu'elle est biaisée, mais elle est particulièrement piégeuse parce qu'elle repose sur une notion qui est celle de la liberté, à partir de laquelle, selon la manière dont on la pose, l'une ou l'autre de ces définitions, enfin de ces approches, peut prétendre se justifier. Ok, admettons.
Est-ce qu'on continue ? Est-ce qu'on... Je voulais quand même attaquer Nicolas Chifflot. Parce qu'alors il me semble...
Quand tu veux.
Il me semble que tu as qualifié d'erreur, mais je t'écoutais pas très attentivement, donc je me suis peut-être...
C'est souvent trompé. Le cas.
L'idée... Enfin, il serait constitutif d'une erreur pour une activité scientifique, ça rejoint ce qu'on disait un peu à l'instant, de commencer par poser un certain nombre de concepts, par exemple pour la science du droit, de partir d'un certain concept de droit qui serait posé, choisi par le juriste, et ce serait une erreur ? Ou est-ce que c'est le cœur, le présupposé, la condition nécessaire de toute activité scientifique que tu qualifies d'erreur ?
Non, je prenais l'exemple de la théorie structurante du droit, où l'un des axes cardinaux est de dire que il y a deux façons de définir la norme, soit, comme le fit Kelsen et d'autres, en partant d'un concept général de science. Et c'est vrai que chez Kelsen, il y a plus chez lui de science que de normes ou de droit. Et pour aller ensuite au droit, en appliquant la conception de la science au droit. Et tandis que la théorie structurante du droit a prétention à ne pas s'abriter derrière les hauts murs d'une conception épistémologique, en cherchant à découvrir un objet que nécessairement elle tend aussi à postuler, l'idée qu'il y aurait des normes et qu'il reviendrait aux juristes de les saisir. Et cela, néanmoins, en cherchant à aller vers la norme plus qu'en partant de la science. Et à partir de là, en même temps qu'elle avance, édifier son programme scientifique, qui ne peut aussi se comprendre, je ne l'ai pas précisé, mais que dans l'idée que dans un cadre linguistique.
Donc c'est là que Jean-François Laffey nous manque
terriblement,
vivement, puisqu'il aurait pu s'insurger contre le syncrétisme méthodologique dont tu te fais le champion et honté.
Oui, sans doute.
Y a-t-il d'autres remarques, d'autres questions, Isabelle? Non, tout. Monsieur le Président.
Donc j'arrête ou on continue?
C'était très intéressant, merci beaucoup.